Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Sommaire aujourd'hui, suite et fin de notre série d'émissions consacrée aux FIFAM édition 2024, le festival international du film d'Amiens. Et durant cette deuxième émission sur le FIFAM, nous allons revenir en détail sur la rétrospective Vampire Corps Troublé. Alors en compagnie de deux réalisateurs, alors Louis Séguin qui a signé Marina Leda et Céline Rouzet qui a signé En attendant la nuit. L'équipe de Culture Prohibée remercie Émilie Barbin et Isabelle Buron pour leur aide sur cette émission. Pour causer FIFAM, je suis accompagné de mon fidèle Thomas Roland, mon loup-garou amiénois à moi, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour RCA. Bonjour Thomas.
Bonjour Gégé et bien évidemment bonjour à toutes.
Nous continuons notre exploration du FIFAM 2024. Alors la semaine dernière, vous avez pu écouter Adrien Beau, réalisateur du film Le Vourdalak. Et ce film fait partie d'une très grosse section, la plus grosse du festival, qui s'appelle Vampire au pluriel, Corps troublé au singulier. Une rétrospective de 21 films, donc dans la on a pu voir, alors qui s'accompagne aussi d'un film d'ouverture, hein, on peut le dire, hein, Les Prédateurs de Tony Scott, qui a été aussi diffusé en ouverture, et d'un film de clôture, Le Dracula de Francis Ford Coppola, et qui met en avant quand même des classiques et des films un peu plus rares. Alors parmi les classiques, on avait Le Nosferatu de Murnau, La Féline de Jacques Tourneur, Le Renne Blanc de Eric Blomberg, La Planète des Vampires de Mario Bava, Le Curoneco de Kaneto Shindo, Le Morse de Thomas Alfredson, l'un des derniers grands films de vampires réalisés ces 20 dernières années, on avait après des films qui étaient plus des films, on va dire, certains vraiment singuliers, vraiment des raretés, d'autres qui s'inscrivaient dans cette thématique, comme par exemple on a pu revoir La fille de Dracula de Lambert Hillier, film de 36, qui fait suite aux deux films de Browning. On a pu, qui est un peu moins connu, hein, sur cette fois-ci, la comtesse Maria Zaleska, qui en fait est la fille de Dracula. On a pu voir en film plus rare ce film un peu déjanté qui a été projeté dans une péniche, la péniche Célestine, qui est très représentatif de ce qu'était le cinéma underground américain des années 70, The Velvet Vampire de Stephanie Rothman, qui pour le coup là est un film totalement culture prohibée. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui vont dans la maison d'une certaine Diane, une maison isolée dans le désert, et puis c'est une sorte d'étrange triangle amoureux, matinée de vampirisme, de réflexion sur l'art, et avec le tout avec une esthétique, ma foi, très 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 70s, très étrange, un film fort sympathique et assez hallucinogène, si j'ose m'exprimer ainsi. Dans le genre film hallucinogène, il y avait aussi le très atypique, le très singulier Ganja and S de Bill Gunn, qui est quand même un film... attention, si vous croyez voir un film de vampire classique, ne regardez pas Ganja and S, parce que là, on est dans du cinéma expérimental, c'est limite du Warhol, hein, c'est complètement barré, on est dans un autre monde, on en a déjà parlé dans l'émission de toute façon de Ganja and S, qui est un film quand même, on peut le dire... qui a un côté très expérimental, quoi, voilà, mais qui fait bien le lien avec aussi, je trouve, le film de Stéphanie Rothman, où on est dans des films à mi-chemin entre le cinéma commercial de série B et le cinéma plus ambitieux, plus barré, puis très dans une époque aussi, on va le dire, voilà. Dans les films, on va dire, un peu plus originaux, des films dont on a déjà parlé aussi, il y a La mariée sanglante, par exemple, de Vicente Aranda, il y a Le traitement de choc d'Alain Gessua. Alors, je sais que Thomas, lui, c'est un fan d'Alain Gessua, mon cher Thomas.
Il se sert du mythe du vampirisme pour faire un, pour parler de la façon dont on traite les migrants. Et c'est un film qui est d'une modernité incroyable, parce que c'est quand même un film qui date de 72 et qui, à mon avis, n'a pas pris une ride par rapport à la façon dont sont traités les migrants aujourd'hui, c'est-à-dire de simples esclaves, enfin, pas tous, hein, évidemment, mais cette façon de les exploiter un maximum, comme on peut voir aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un film qui en parle, c'est l'histoire de Suleiman, comme on peut voir aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, ils donnent pas leur sang, mais c'est quand même jusqu'à l'épuisement. Ils prennent parfois même des risques, hein, pour aller vite, pour pouvoir livrer un maximum de repas, un minimum de temps, etc. Je trouve que le film d'Alain Gessua annonce cela, cette façon d'exploiter des migrants, des personnes qui n'ont pas forcément des papiers pour pouvoir faire un travail légal ou quoi aux caisses.
Autre film que tu aimes bien, qui était proposé en double programme avec le film de Park Chan-wook, Force, ceci est mon sang, il y avait aussi Aux frontières de l'aube, de Catherine Bigelow. Alors, c'est pas un film qu'on découvre, hein, mais voilà, c'était un film qui... C'est toujours plaisant de le voir sur le grand écran. Et puis après, il y avait des films un peu plus récents, alors, enfin un peu plus récents, bon, il y a quand même une dizaine d'années déjà, ce film, comme A Girl Walks Alone at Night, un film un peu arty de Anna Lily Amirpour, mais qui est un film intéressant, qui est un film d'une Iranienne qui fait un film de vampire en noir et blanc vivant aux États-Unis, ayant beaucoup regardé de films de Jim Jarmusch, si je peux résumer ainsi. Le récent Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant, d'Ariane Louis XVI, film sympathique, voilà, petite comédie un peu romantique comme ça. Le loupé, mais intéressant, parce que film un peu malade, film de 2009 de Karine Kusama, Jennifer's Body. Et puis nous, on a choisi de s'arrêter sur quelques films qui nous ont particulièrement marqués. Alors, il y a un film, on n'a pas rencontré le réalisateur, forcément, il n'est plus de ce monde, mais c'est « Et mourir de plaisir » de Roger Vadim, qui est une adaptation plus ou moins déguisée du Carmilla de Sheridan Le Fanu. Et mon cher Thomas, on a pu le voir ensemble sur le grand écran. Ce film de Vadim, quand même, c'est une belle surprise, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, parce que on avait oublié, en fait, que Vadim, on est toujours un peu prisonnier des films de Vadim avec Bardot, tout ça. On a un peu oublié que Vadim, on le voit aussi dans Les Histoires Extraordinaires, le film à sketch qu'il a co-réalisé avec Fellini et puis Louis Malle. Il avait une appétence pour le fantastique et pour l'érotisme, évidemment, qui là se marie très bien dans ce « Et mourir de plaisir ». Écoutez Culture Prohibée spécial FIFAM 2024. Découverte, Thomas, de cette programmation, une découverte en plus qui a eu lieu dans un cadre assez sympathique et qui nous a permis de rencontrer un réalisateur qui est aussi critique de cinéma et que l'on avait déjà rencontré et interviewé pour l'émission dans le cadre d'un livre sur Lucas Bellevaux qui était sorti aux éditions Playlist Society, c'est Louis Séguin. Et Louis Séguin, il a réalisé donc un film d'une cinquantaine de minutes qui s'appelle Marina Leda, qui a été publié dans le très beau cadre du musée de Picardie. Hein, et d'ailleurs, il y avait eu une visite à qui accompagnait le film « Rien n'est plus beau que le mal ». Et avec aussi le réalisateur qui était là pour répondre aux questions du public. C'était fort sympathique. Et on est sur les routes de Corrèze. Il y a deux types qui ont l'air de deux glandus, en fait. Hein. D'ailleurs, c'est voulu comme ça. C'est une sorte de Laurel et Hardy moderne. Qui se retrouvent à faire du stop, en fait. Mais c'est deux vampires. Mais ça, bon, on ne nous le dit pas tout de suite. Bon, c'est dans la rétrospective vampire, on s'en doutait un peu. Mais celui qui découvre le film pour la première fois et qui ne le sait pas, je pense que ça rajoute un charme supplémentaire à ce film, qui est une sorte de comédie de mœurs à la Romère un peu dans sa première partie, avec des échanges un peu curieux entre ces deux personnages, où on se demande un peu où ils veulent en venir. Et puis, il y a une deuxième partie et le film bascule dans autre chose. Et en tout cas, ces deux vampires, en fait, on devine qu'ils ont plusieurs siècles d'existence, sont deux jeunes hommes, puisqu'ils ont dû être vampirisés autour de la vingtaine, qui s'ennuient et qui veulent aller à Marina Leda, ce fameux village autogéré à tendance communiste qu'il y a en Espagne, qui existe vraiment. Et donc, ils veulent y aller pour voir s'ils peuvent s'intégrer dans ce monde-là. Est-ce qu'on les acceptera là-bas ? Donc, mais pour ça, il faut qu'ils y aillent en stop. Et donc, on les suit dans ce road movie, ce mini road movie comme ça, où ils vont rencontrer plusieurs personnes. Dans ce film très élégant, assez touchant, plutôt bien interprété, très drôle. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il y a l'un des deux vampires qui a une sorte de sosie de François Bégodeau avec des cheveux longs. C'est assez drôle. Et en plus, il est très marrant. Il est très marrant. Et ces deux personnages un peu particuliers, parce qu'en plus, ils n'ont aucune pudeur, peuvent se mettre tout nus comme ça, ça ne les gêne pas. Enfin, ils ont. C'est assez rigolo. Et le film est assez drôle. Et en même temps, il y a une petite pointe de tragique qui surgit comme ça. C'est une très belle réussite. Et moi, je vous invite tout de suite à ce qu'on parle de ce film avec Louis Séguin, donc, qui est réalisateur de Marina Leda. Je précise d'ailleurs que Marina Leda, pour ceux qui sont abonnés à Canal+, est visible sur MyCanal. Donc vous pouvez vous taper Marina Leda et vous allez pouvoir voir ce petit bijou de court-métrage, moyen-métrage, voilà, de 50 minutes.
Je commence à avoir faim. Pourquoi on continue à faire du stop ?
Vous allez où, les gars ?
On va à Marina Leda.
C'est où ça ? Je connais pas. C'est dans le coin ?
C'est un petit village tout au sud de l'Espagne.
Ah ouais, vous êtes pas arrivé encore, hein ?
Tu le sens ? Oui.
Bon allez, il y a personne à la maison, je vous invite. Oh, vous tombez bien !
Mais on peut pas vous retenir.
Mais vous ne me retenez pas, je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour Louis Séguin.
Bonjour.
Alors nous sommes en compagnie de Louis Séguin qui est le réalisateur donc de Marina Leda, alors qui est un moyen métrage consacré à un duo de vampires. On va en parler un peu dans l'entretien. Avant ce moyen métrage, il y a eu des courts métrages. Enfin même d'ailleurs un premier court métrage qui était un moyen métrage, on peut dire ça comme ça. Il y a eu les ronds-points de l'hiver qui abordaient la question du polar en détournant. Et puis il y a eu Saint-Jacques-Guélussac et Bus 96 qui étaient deux films dans lesquels les personnages, à l'image de ce qu'il y a dans celui-là aussi, s'interrogeaient sur leur vie, leur souvenir, leur devenir aussi. Est-ce qu'on peut dire que ce film-là, Marina Leda, c'est un peu une sorte de synthèse un peu de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a le genre et puis de l'autre côté il y a des personnages qui sont dans une certaine forme de spleen aussi.
Je pense qu'on peut le dire, ouais, c'est vrai que après moi je le fais pas forcément consciemment, mais c'est sûr que de film en film j'identifie de plus en plus ce qui m'intéresse, même d'un point de vue formel et de mise en scène, et l'amitié par exemple, et le rapport entre l'amitié et la société, le rapport entre l'amitié et une sorte de mélancolie personnelle. Enfin, ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, qui se retrouvent un peu, oui, j'imagine, dans tous les films. Et le genre, c'est sûr que ça permet d'aborder ça avec des codes que tout le monde a, de les détourner, de jouer avec les codes. Donc oui, je pense que c'est une façon, on peut dire ça comme ça.
Alors, le genre, certes, mais pourquoi les vampires ?
Mais alors, en fait, c'est un ami qui a écrit le scénario au départ, et lui a vécu une histoire assez proche de... alors évidemment, là c'est très fantasmé dans Marina Leda, mais lui a fait du stop pour se rendre dans ce village, qui est un village donc autogéré en Andalousie, qui s'appelle Marina Leda, dont il est question dans le film. Et donc il a fait un peu la même trajectoire que ces personnages de vampires, mais sauf qu'il n'est jamais arrivé là-bas en stop, il n'a pas trouvé de voiture une fois qu'il était en Espagne. Bref, et donc un peu frustré, il s'est mis à imaginer ce dialogue intérieur entre deux personnages, alors que lui était tout seul. Et il a imaginé des vampires à partir de cette idée de parasites sociaux, en fait. Enfin, cette idée qu'on plaque sur les gens qui ont une existence un peu marginale, comme là, en l'occurrence, les stoppers, vus comme des parasites. Et je pense que c'est... Après, il a plus ou moins, je dirais presque déliré à partir de ça, de ce point de départ. Et il a écrit ce scénario que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, enfin voilà, l'idée vient de lui, l'idée des vampires. Mais moi, ça m'a beaucoup plu parce que, bah, pour les mêmes raisons, c'est des personnages de marginaux qui sont censés avoir pas d'âge, traverser les siècles, pouvoir en fait observer la société qui évolue, qui change, et eux avoir un regard toujours un peu critique et extérieur à la société.
Bon, c'est un road movie avec les vampires, donc ils veulent aller vers ce village de Marina Leda, mais ça peut paraître comme ça quand on en discute, là, le spleen, la mélancolite, mais c'est pas que grave, c'est assez drôle en fait aussi.
Eh bien, j'espère, ouais, c'est vrai que c'est un ton. Voilà, en tout cas, que j'aime beaucoup moi au cinéma, quand on bascule jamais complètement dans un registre ou dans l'autre, mais que c'est toujours sur le fil et qu'on peut aborder des choses plus ou moins graves, mais avec toujours un esprit de cocasserie un peu que le réel offre aussi, enfin des gens croisés, voilà.
La vraie vie, quoi.
Voilà, on peut dire ça.
Et il y a quelque chose aussi qu'on peut se dire en regardant le film, parce qu'on ça transparaissait. Alors moi, j'ai vu deux des trois précédents cours. Je n'ai pas vu Bus 96, mais ça transparaissait quand même dans les cours aussi. Hein. Ça fait un peu portrait d'une génération aussi, d'une jeune génération, hein, mais portrait d'une génération. C'est un moment, il y en a un qui dit « j'en ai marre de notre solitude ». Enfin, c'est vraiment... on parle du repli sur soi, on parle de... C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils veulent aller vers ce village qui est un village autogéré, communautaire. C'est un choix délibéré, ça, je suppose.
Oui, complètement. Et c'est vrai que je pense qu'il y a de commun, enfin, peut-être dans la génération. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est un sentiment qui m'entoure beaucoup. L'idée de perte d'utopie ou de modèle. Même les lieux où on vit qui font souvent plus beaucoup rêver, on s'interroge sur où vivre, comment, avec qui. Et en fait, ça renvoie souvent à une impression un peu de marginalité, enfin, en tout cas de contre-courant de la société, mais c'est pas toujours évident. Voilà, on n'est pas, on n'est pas à des périodes d'utopie collective évidentes, donc c'est un peu éclaté, c'est difficile d'identifier des familles, en fait, dans la société, peut-être, pour ces personnages.
Il y a quelque chose aussi, il y a un côté, je pense que dans vos influences, il y a... Enfin, il y a Marie Rivière, il y a Romère, quoi.
C'est un cinéaste
que vous aimez beaucoup, Romère, parce que c'est un côté comédie de nurse, Anna Romère aussi, ça transparaît un peu dans les dialogues, plus dans la première partie, je trouve.
Oui, et puis même cette façon de... Enfin, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup été impressionné par la façon que Romère a de filmer même la France, enfin, c'est dit comme ça, c'est un peu vague, mais je veux dire, de concrètement filmer des personnes dans un paysage, dans un décor, sur un territoire, en lumière naturelle, et puis après cette disponibilité des personnages qui fait qu'ils accueillent ce qui arrive, et ça c'est vraiment aussi propre au cinéma de Romère, l'amour pour les dialogues, quoi. Enfin, c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les dialogues au cinéma, et ce que ça crée entre les personnages, et comment ils se définissent par leur façon de parler, et ça c'est aussi... C'est sûr, c'est pas le seul, évidemment, mais c'est un cinéaste pour qui c'est très important, et c'est ce que j'aime beaucoup chez lui. Ouais.
Et puis qui a utilisé des acteurs aussi qui sont des grands, on va dire, pour réciter du dialogue, ils sont très bons. Voilà, c'était vraiment une de ses particularités. Parce qu'ils sont bons, là, ils sont pas très connus, les acteurs, mais ils ont... je trouve que le duo, là, il est assez cocasse. Et il y a un petit côté Laurel et Hardy, puis un côté...
Oui.
En même temps, ils sont un peu flippants par moments, mais il y a un côté Laurel et Hardy aussi.
Oui, c'est un peu un duo comique de départ qui, en fait... Et après, j'ai l'impression que l'idée était de modifier ce duo avec l'apparition du troisième personnage, de Lise, qui apporte un nouveau point de vue au spectateur aussi sur ces personnages-là. Donc c'est un duo qui évolue.
Oui, parce que le film a une bascule, très clairement. Enfin, il y a une première demi-heure, et puis après, il y a une deuxième demi-heure. Non, mais enfin, en gros, il y a 25 minutes et 25 minutes qui sont sur des tons avec une petite rupture. Ouais. Et tout à coup, à la fin, il y a quelque chose que moi j'aime bien, qui est cette idée de la passion de Bach, mais qui est jouée version électronique. Ça vient d'où cette idée? Comment c'est arrivé?
Ça c'est vraiment venu pendant que j'écrivais le scénario. J'aime bien intégrer les musiques dès le scénario, parce que pour moi ça peut être très important, même à faire écouter aux comédiens, à faire écouter à l'équipe, et à donner une coloration à la scène. Et j'écoutais beaucoup j'ai écouté beaucoup de ça, en fait, des reprises de morceaux de grands classiques, en version 8 bits, en fait, c'est-à-dire chiptune,
oui, comme ça. Ça fait vieille console de jeu.
Oui, exactement.
Fait,
ouais. Et aussi, je trouvais que c'était quelque chose. Et d'un coup, le mariage, en écrivant et en entendant cette musique, j'ai cherché quand même un peu dans cette direction. Donc, j'écoutais beaucoup de reprises comme ça, classiques en chiptune. Et d'un coup, la Passion selon saint Matthieu, ça marchait très bien pendant que j'écrivais cette scène-là. J'écoutais ça et je sentais le mariage. Enfin, voilà, j'avais l'intuition que ça marchait bien. Enfin, et donc, je l'ai intégré.
Et est-ce que, parce que souvent, quand on travaille le montage, on travaille avec une musique en tête. Est-ce que vous, quand vous écrivez, vous pensez au montage, vous pensez à... Ouais, c'était pareil, c'est le même système d'écriture.
J'essaye de réfléchir à la musique dès l'écriture, dès le scénario. Ouais. C'est pas le cas de toutes les musiques, mais par exemple la chanson que chante un des personnages dans la voiture, on la réentend à la fin. Je savais que ce serait une chanson importante dans le film. Je trouve que c'est... Ça donne complètement une orientation, même pour les comédiens, en fait, ça peut les aider vraiment à comprendre sans entrer dans le détail d'indications de jeu. Ça peut donner vraiment la coloration de la scène et ils peuvent comprendre assez rapidement ce que j'imagine comme ambiance, en tout cas.
Je voulais terminer en vous demandant si d'ailleurs vous allez finir par passer enfin au long métrage et si vous allez persister plutôt dans le genre, enfin dans votre façon d'aborder le genre, je veux dire, ou revenir à quelque chose, parce que là vous avez deux œuvres qui sont dans les quatre que vous avez réalisées qui se rattachent vraiment à du genre, au cinéma de genre, puis deux autres qui vont être plus je n'aime pas du tout cataloguer, mais qui vont être, on va dire, cinéma d'auteur. Voilà, pour parler, ce qui ne me gêne pas en soi, hein, ce qui ne veut pas dire grand-chose non plus. Est-ce que vous envisagez, du coup, de passer au long, de continuer des cours, et puis vous orienter vers quoi? Quelque chose qui mixe encore les deux, quelque chose...
Depuis, j'ai fait un court-métrage qui est vraiment une comédie burlesque, pour le coup, qui joue avec pour un autre genre, mais qui est les codes du burlesque. Là, j'écris un long-métrage depuis un moment, et voilà, j'espère que le faire un jour, évidemment. Je ne me pose pas tellement la question en termes de genre et de catégorie, mais c'est sûr qu'il y aura un peu ce mélange de tons comique et moins comique, et par ailleurs... même dans Saint-Jacques-des-Lussac, il y a des éléments. Enfin, c'est une fin qui est assez fantastique. Enfin, en tout cas, ça, j'utilise des éléments de fantastique, mais un peu sans vouloir l'ancrer dans un genre proprement fantastique. Mais voilà, ce sera à peu près pareil à mon avis. C'est-à-dire qu'il y aura un peu des éléments de genre, mais pas forcément des personnages aussi stéréotypés et codifiés que les vampires. Mais voilà, en tout cas, il y aura des éléments comme ça de fantastique.
D'accord. Vous ne mettez pas de barrière, en fait. Voilà. Si vous avez envie de mettre un élément... On rappelle, le film s'appelle Marina Leda. Donc, on vous remercie, Louis Séguin. Et comment peuvent faire nos auditrices et auditeurs pour voir le film?
Alors, il est disponible sur Ciné+, je pense, sur le site de Ciné+, pour les gens qui sont abonnés. Il passe de temps en temps. Il y a des diffusions à la télé aussi, donc sur Ciné+.
Écoutez Culture Prohibée. Dernier film qu'on a gardé le meilleur pour la fin, dont on voulait vous parler, c'est En attendant la nuit de Céline Rouzet, qui est vraiment, pour moi, l'une des grandes découvertes de l'année. C'est un film sorti en salle en 2024. Et c'est l'histoire d'un adolescent, en fait, qui est un adolescent, en fait, qui est un vampire. Enfin, en tout cas, voilà, dès la naissance, il se nourrit de sang, c'est un vampire. Et sa famille est obligée d'aller de se cacher et de vivre dans, comme ça, dans des endroits différents du territoire français, de se déplacer constamment. Donc sa maman, c'est Élodie Bouchèze, qui là fait une, comment dire, fait une infirmière, du coup, ce qui est un peu pratique. Infirmière au don du sang pour essayer de piquer des poches de sang. Toute cette famille, alors il a aussi une petite sœur, il a un père qui est assureur, et lui il est adolescent, donc il est en pleine croissance, il est en pleine, découverte de son corps, il a des pulsions adolescentes, il commence à y avoir des poussées de désir, hein, ça, c'est normal, c'est l'adolescence. Et ils se retrouvent tous dans une banlieue pavillonnaire trop proprette, trop belle, presque suspecte en fait, hein, avec tous ces gens qui font partie de la classe moyenne plus, quoi, tous ces gens qui ont réussi. Et ils vont devoir vivre dans cet univers-là, dans ce monde-là. Ils vont essayer de s'intégrer. Alors évidemment, ça va pas bien se passer, vous vous doutez bien. Et ça donne un film que je trouve très beau. Un film qui est surtout, je suis très attaché à ça, mais magnifiquement bien mis en scène. C'est une vraie démonstration de mise en scène, dès le début, avec cet écran noir, ce bébé qui naît, dont on découvre tout de suite sa particularité, cette tache de sang qui arrive derrière. On sait tout de suite qu'on a affaire à une mise en scène au cordeau, un découpage très travaillé. Et tout le film, ça va être comme ça. C'est-à-dire avec énormément de... On sent un énorme travail sur la mise en scène, vraiment rien n'est laissé au hasard. Tout est millimétré, tout est sublimement mis en scène, la photo est superbe, les interprètes sont magnifiques. Je ne développe pas beaucoup, je sais que Thomas, toi aussi, tu as beaucoup aimé ce film de Céline Rouzet. Je ne développe pas beaucoup parce qu'après, on va en discuter avec la réalisatrice.
On est dans une ambiance, une atmosphère un peu fantastique, mais aussi ce petit village pavillonnaire qui fait très ville nouvelle aussi. Il y a un petit côté un peu futuriste. En fait, je trouve que ça fait très film de John Carpenter, hein, la façon, ce regard sur... sur une petite banlieue pavillonnaire comme ça. Et c'est effectivement un beau film sur la marginalité, sur qui sont réellement les monstres. Hein. D'ailleurs, elle en parle dans l'interview, hein, ses références et la façon qu'elle a d'inverser les valeurs par rapport à cette histoire, cette singulière histoire de vampire.
Bah, je vous propose, chers amis auditeurs et auditrices, qu'on se quitte en écoutant Céline Rouzet, que nous avons pu longuement interviewer, hein, grâce aussi, on leur redit merci ici à Émilie Barbin et Isabelle Buron. Et Céline Rouzet, elle va revenir longuement sur son film, sur ses influences, sur son premier film aussi. On n'en a pas parlé, mais on va en parler avec elle. Et on vous encourage grandement à voir En attendant la nuit, qui est aussi disponible sur MyCanal, hein, que l'on peut voir sur MyCanal, en attendant une sortie sur support physique. Et donc tout de suite, Céline Rouzet au micro de Culture Prohibée.
Bonjour Céline Rouzet.
Bonjour.
Alors, on est aujourd'hui ensemble pour parler du film En attendant la nuit. Mais avant, En attendant la nuit, il y a eu un documentaire assez terrible quand même sur l'histoire d'une famille en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est spoliée par une autre forme de vampire, on va dire, ExxonMobil. Qu'est-ce qui fait le déclic qui fait que on est documentariste et puis on se dit on va passer à de la fiction?
Ouais, c'était 140 km à l'ouest du paradis. En fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu raconter des histoires. Et puis, mon parcours a fait que je suis passée par le journalisme. Et assez vite, je suis allée vers le documentaire radio et vers ce film documentaire, donc le cinéma documentaire. Et je crois que c'était d'abord une envie de comprendre le monde. J'aborde finalement des thématiques assez similaires, même si les films sont très différents. Mais ça parle aussi de la peur de l'autre, de la violence de la norme, de la peur de son voisin et aussi d'un frère disparu. Donc nos obsessions nous poursuivent. Et il s'avère que moi, je ne fais pas vraiment de différence entre ces deux. Justement, d'ailleurs, je regrette que souvent on parle de films, de vrais films, quand on parle de fiction et pas pour le documentaire. Je pense que c'est la même chose. En tout cas, j'étais en train de développer 140 km à l'ouest du paradis. Ça a pris 10 ans. C'était un gros travail. Et alors même que je le développais, un drame a frappé ma famille, notamment mon frère, et j'ai eu besoin d'en faire quelque chose et de raconter cette histoire. Et voilà, et c'est là que j'ai commencé à écrire cette fiction En attendant la nuit. Donc pour moi, c'est plus quelle histoire je veux raconter et comment je la raconte que passer... tiens, j'ai envie de faire de la fiction.
Oui, on est d'accord. Un documentaire, ça s'écrit, ça se met en scène. C'est exactement pareil qu'un film de fiction. Même si ça peut s'écrire différemment, un documentaire peut s'écrire au montage. Alors qu'un film de fiction, là, surtout un petit budget, mais on va en reparler, forcément, c'est très écrit, très découpé avant.
Gros travail de scénario. Ouais,
Justement, alors on va passer entre guillemets au vrai vampire avec En attendant la nuit. Alors, vous avez commencé à en parler, mais vous expliquez que votre frère voyait des vampires, enfin, et que le film en fait vous est très personnel. C'est une. Vous faites le genre du film fantastique pour pouvoir raconter un drame personnel, quoi.
Oui, c'est ça. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que cette forme et ce type de film s'est imposé. C'est que, voilà, mon frère, il est né avec une différence au départ invisible. Il a subi beaucoup le rejet, la persécution, le rejet des autres. Il en a beaucoup souffert et ça a fini très mal. Et donc, ce drame m'a rempli d'un sentiment d'injustice, d'impuissance, de colère très fort. Et voilà, j'avais besoin de raconter cette histoire. Et c'est vrai que je ne savais pas comment le faire, parce que la raconter de façon trop frontale, trop naturaliste même, ça me paraissait trop dur. Et c'est vrai que comme mon frère, quand il était petit, il voyait des vampires qui venaient dans sa chambre pour lui parler, il avait hyper peur de ces monstres. Et au fil de sa vie, il s'est mis à regarder beaucoup de films de vampires. Et j'ai compris par la suite que, en fait, c'est qu'il se sentait proche, d'une certaine manière, de ces créatures marginales, de ces monstres fragiles, incompris par le commun des mortels, dont la condition est invisible au premier regard, comme peut l'être le handicap, la dépression, le mal-être adolescent. Et qui sont forcés de rester dans l'ombre de la société, en fait. Et voilà. Et donc, le film de vampire, c'était finalement une manière de me mettre à distance de mon histoire personnelle, paradoxalement d'édulcorer une réalité qui aurait été trop dure à raconter de façon frontale. Et puis, après, c'est aussi un style de cinéma très généreux qui permet d'exacerber le drame des situations, le lyrisme, la romance. Et j'avais aussi envie de ça.
Parce que, alors effectivement, le film se rattache au fantastique, mais moi, quand je le vois, je pense à un film à la fois un thriller et un drame, un film de Lumet avec River Phoenix que je trouve excellent, que j'aime beaucoup, qui s'appelle À bout de course.
Ouais,
ça fait partie des influences du...
C'est drôle parce qu'À bout de course, c'est vraiment un film que j'ai découvert pendant que j'écrivais, parce qu'il y avait... De toute façon, tout circule, les idées circulent, et en fait, sans que je l'ai vu, j'avais des scènes qui étaient assez similaires, notamment sur l'histoire d'amour, dans la forêt. Il y avait des motifs, en fait, qui se retrouvaient, et puis cette famille en cavale. Et donc, on m'a fait découvrir ce film, qui est devenu une référence. Et oui, il y a ce romantisme aussi dans ce film, cette tendresse au sein de la famille. C'est une famille, c'est une famille de combattants épuisés qui sont à bout de course aussi en attendant la nuit. Et voilà. Et c'est vrai que le film de Sidney Lumet a été une grande source d'inspiration pour ça.
Et puis, un peu à la manière de Sidney Lumet, qui est un réalisateur. Il y a certains critiques qui disent que c'est un metteur en scène invisible, c'est-à-dire que c'est un metteur en scène très technique, avec une grande variété de plans, un gros travail sur le son et l'image, sans qu'on s'en rende forcément compte en regardant le film. Votre film, c'est un peu pareil, en fait, parce que la mise en scène est hyper travaillée. La scène dans le garage, avec le son, on entend le cœur qui bat. Alors je ne sais pas si c'est un travelling ou un léger zoom, mais qui est en avant vers les deux protagonistes dans la voiture. Et tout le film est comme ça. Est-ce que vous avez travaillé à faire un énorme découpage avant? Parce que c'est un film très très stylisé, en fait.
Ouais. En fait, c'est à la fois la contrainte budgétaire qui pousse à trouver une grammaire au film, mon goût justement pour ce type de film où en fait la mise en scène va pas être dans l'outrance, mais chaque plan a un sens. Oui, par exemple, j'adore cette scène de, mais c'est marrant, cette scène du garage, donc c'est Camilla et Philémon, qui est une scène d'érotisme pudique. de rapprochement amoureux. Il y a une très grande tension dans cette scène, beaucoup qui joue par les silences, les jeux de regard. Et en fait, il s'avère que c'était une scène, au départ, j'avais trouvé ou testé le jeu de Céleste Brunkel et Mathias Amon-Legout au casting. Ensemble, ils étaient contre un mur et ça m'a donné l'idée de cette mise en scène. Et après, il y a la contrainte budgétaire, ça devait être dans une chambre. Et finalement, bah, c'était bien plus simple de ne pas construire un décor en plus, donc d'avoir un garage avec une voiture de course. Parfois, c'est aussi ça, la créativité, elle vient de la contrainte. Mais je tenais à ce plan comme ça, où on pouvait jouer des regards avec ce travelling avant qui est prolongé par un zoom. Donc vous avez complètement raison. Et oui, il y a eu un gros travail donc, avec mon équipe mise en scène, donc Maxence Lemonnier, le chef opérateur, la script Pauline Feller, mon premier assistant Ludovic Giraud. Et en fait, on a beaucoup découpé en amont parce qu'on savait qu'on aurait très peu de temps de tournage, 26 jours. Prépa courte aussi, donc l'équipe a beaucoup donné. Et voilà, donc c'est en fait une mise en scène au cordeau, où on a très peu de points de montage, où chaque plan est pensé et où on n'avait pas beaucoup, on n'avait pas le droit même de vraiment modifier nos idées de mise en scène, tout devait marcher quoi. Et voilà.
Y compris le climat, parce que c'est un
film. Y compris, effectivement.
Parce que c'est un film de vampire aussi, qui est un film, comment dire, très dur en fait pour un film de vampire.
Ouais, c'est vraiment un film de vampire que je voulais solaire, en plein été, et on a joué, ça il faut imaginer aussi qu'on a joué, en fait il y a une grande précision de la mise en scène, de l'image, de la lumière, parce qu'on a joué de la lumière naturelle, donc dans cette banlieue qui était très arborée, et donc il fallait calculer à tel moment l'ombre allait être comme ça, enfin allait être à cet endroit, donc Philémon allait pouvoir se placer à l'ombre, enfin toute la mise en scène était déterminée aussi par ces ombres et donc le temps, la météo, mais aussi le moment du jour où on allait pouvoir filmer. Donc en fait c'était extrêmement contraignant, mais on a complètement, c'était une espèce de folie parce que sur 26 jours il fallait miser, parier sur une météo parfaite. Un temps clair, sans nuages. Le moindre nuage venait tout foutre en l'air. Et c'est ce qui s'est passé, parce que parfois, les films sont des miracles, et un alignement de planètes, et c'est... Voilà.
Oui, parce on l'a eu. Vous n'avez pas mis tout... Enfin, vous êtes compliqué la vie. Il y a une scène de groupe, scène de lynchage. Il y a des scènes, je pense aussi, là où on fait le don du sang, qui ne peuvent pas être si simples que ça à tourner, parce qu'il y a...
Gros plan séquence.
Voilà, il y a du gros plan séquence. Puis je pense aussi à ces scènes de baiser très hitchcockiennes à la Vertigo, mais en même temps découpées. Enfin, ça a dû être quand même assez monstrueux. Vous ne deviez pas beaucoup dormir, je pense.
Non, j'ai perdu pas mal de poids pendant ce tournage. Ouais, en fait, il y avait du sang, il y avait un chien, il y avait une petite fille, il y avait des scènes de nuit, scènes de groupe, effectivement, beaucoup de figuration. Là, ouais, quand vous parlez de cette scène du baiser à la Vertigo, c'est un plan séquence, on tourne autour d'eux, il y a le coucher de soleil. Donc, 5 prises. Enfin, à chaque fois, c'est très peu de prises. À chaque fois, c'était comme ça, en fait. Donc, oui, il fallait que les comédiens soient excellents très vite, il fallait tout faire. Miser à chaque fois sur l'excellence de tout le monde.
Absolument qu'on ait l'air les plus normaux possible.
Mais les voisins?
Tant que tu fais comme tout le monde, t'es tranquille.
Peut-être que je devrais faire directement une autre poche, moi, pour demain.
Une fois que c'est fini, tu fais disparaître la poche.
Gong 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 gong. C'est ça.
Ok.
Gong 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 gong. Gong 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 gong. C'est plus dur que ce que j'imaginais.
T'es un peu bizarre, toi.
Quelqu'un, un mouchoir.
Christophe, laisse pas faire. Calme, bouge.
Ça t'a fait quoi quand tu l'es chez maman?
Je sais pas ce qui m'arrive. T'es chez moi, ici. Pourquoi vous m'avez laissé vivre ça?
Où est-ce qu'on s'enfuit?
Lâche-la, je te dis!
Arrête! Il est mort! Reviens! Mords-moi.
Il y a une révélation, effectivement. Il y a Mathias Amon-Legout qui est qui est un acteur, hein, mais qui n'avait jamais fait de film avant et qui est une vraie révélation, qu'en plus un physique qui correspond bien au rôle, c'est-à-dire il a un petit côté décharné, en même temps il est grand et carré, mais il a un petit côté décharné, un petit côté presque hors du temps.
Ouais, c'était, et puis cette pâleur qu'il a fallu absolument préserver au tournage, donc il se baladait toujours avec un parapluie noir, il avait toujours un assistant au-dessus de lui qui lui courait après, on lui a passé beaucoup de crème solaire et tout ça, mais j'ai cherché aussi un physique qui s'éloigne des canons de la virilité classique, justement la figure du vampire ça a pu être... un homme d'âge mûr qui exerçait une séduction patriarcale sur ses proies. Et là, non, on est dans une figure beaucoup plus androgyne, plus fragile. Mais il fallait qu'il soit à la fois très doux, magnétique, mais aussi effrayant, qu'il ait un potentiel effrayant, parce qu'il est en tourmenté, en lutte contre lui-même et contre ses pulsions. Et c'est vrai que Mathias avait ce mélange de douceur et de colère enfouie. Une justesse de jeu incroyable, quelque chose d'assez mystérieux. Mais voilà, beaucoup de choses pesaient sur lui. Et c'est vrai que ça a été une grosse prise de risque aussi de le prendre pour ce rôle qui était énorme. Et en fait, il a été incroyable, très impressionnant. Et capable vraiment de donner énormément, de pleurer, d'aller chercher en lui une vérité des émotions très, très rapidement.
Oui, parce qu'il souffre quand même pendant le film. Enfin, il se fait humilier, ses parents ne le croient pas.
Il pleure beaucoup.
Je pense que ça n'a pas dû être si simple que ça à jouer pour un jeune acteur. Après, il y a aussi du côté passage à l'âge adulte, les premières relations sentimentales et tout. Parce que c'est aussi un film de... Comment on appelle ça aujourd'hui, c'est sur l'adolescence, quoi, de coming of age, comme on dit maintenant. C'est aussi ça, c'est aussi un pur film de genre, mais pas que dans le fantastique. Je veux dire, il y a d'autres genres qui se mélangent dans ce film.
Bah, c'est là où la référence à Sidney Lumet, il y a Virgin Suicide. Enfin, c'est un coming of age qui fonce dans le mur, ce film. Et oui, c'est un film qui est aussi romantique. C'est un romantisme sombre. Il y a ce côté émancipation. Film d'adolescence, film de famille, c'est surtout un drame familial en fait, film de vampire, enfin oui, il y a beaucoup de choses qui se mélangent et puis on a voulu mettre un peu d'humour avec ce voisinage à la perfection un peu flippante, avec cette petite sœur qui zozote et qui amène beaucoup de lumière au film et à la famille, enfin voilà. Ouais.
Et puis, je sais parce que vous l'avez dit, l'une de vos références c'est Édouard aux mains d'argent. Il y a aussi La nuit des morts vivants qui est citée de Romero, mais est-ce qu'on peut parler de Martin aussi? Parce que Martin de Romero, c'est quand même un film qui est proche. Ah, ils sont différents les deux films, parce qu'il y a le poids de la religion un peu plus dans Martin, mais c'est quand même un film dont on parle rarement au sujet d'En attendant la nuit, et pourtant, les histoires sont proches. Voilà.
C'est une grande référence, et c'était même une référence pour le casting d'ailleurs, pour le personnage, parce qu'il a ce côté, le comédien dans Martine de Romero, il est à la fois justement très doux, séduisant, mais légèrement repoussant. Il y a une étrangeté comme ça, et parce qu'il a en lui une violence terrible. Et justement, Martin de Romero, c'est intéressant parce que c'est vraiment typiquement, c'est le vrai faux vampire. Et moi, je suis entre deux. Il a les symptômes du vampire, mais est-ce que ça en fait pour autant un vampire? Est-ce que c'est pas la société qui le pousse à devenir un vampire? Et voilà. Et Romero, j'aime beaucoup parce que c'est quand même quelqu'un qui a su faire des films de genre en insufflant, avec une charge politique très forte. Et donc je suis très admirative. Et puis une tension incroyable, un travail sur le son dans Martin qui est génial.
Parce que c'est un film méconnu de Romero, mais c'est un grand film dans sa filmographie.
Ouais,
quand
mais
même.
Très méconnu. Qui n'a pas du tout eu le succès.
Après, il a eu beaucoup d'échecs. Hein, par La nuit des morts vivants, où il n'était pas très bon pour avoir mal déposé les droits. D'ailleurs, il a mis longtemps avant de gagner l'argent avec le film.
Ce qui a été super pour nous. Qui fait qu'on a pu diffuser un extrait de La nuit des morts vivants.
Oui, du coup, il n'y a pas de droit sur le... Ouais. D'accord. Il y a un travail sur le son, il y a un travail sur la photo. Et puis, il y a... je ne sais pas... Quelles sont toutes vos influences pour le film? Mais il y a aussi une utilisation du format large. On sent que vous êtes
scope,
que vous êtes assez fan du scope. Carpenter peut-être. Ouais. Pour reprendre ce que disait mon ami Thomas.
Ouais, que j'adore aussi. Ouais, je crois qu'il y a toutes ces influences. Je crois qu'il y a quelque chose. Ça permet aussi de créer un mythe. Le scope, c'est très romanesque, je trouve. ça donne un souffle, ouais, et oui, j'avais envie de ça. Et après, je suis assez classique aussi dans mes goûts. Le scope, c'est vraiment une envie. Mais je crois pour cette envie aussi d'amener du lyrisme et du romanesque, en fait.
En même temps, comme chez Carpenter, je pense à The Thing, il utilise le scope pour filmer un endroit clos. Mmh. Et là, on est dans un endroit clos, même si c'est ouvert quelque part. Le scope sert aussi à ça. Il permet il y a un paradoxe entre le format et puis le fond.
C'est vrai, et c'est vrai que le scope, ça écrase aussi. Enfin, en fait, nous, par exemple, le ciel était parfois c'était un peu frustrant parce que j'avais envie de montrer cette banlieue avec ses arbres, cette part de ciel et ses maisons et ses jardins. Et en fait, le scope, il faut vraiment choisir. On est dans quelque chose de très horizontal. Et oui, il y a une sensation aussi quand même d'oppression. Ça permet ce paradoxe-là.
C'est un film sur la marginalité, sur la difficulté de s'intégrer dans un groupe. Et par rapport à la fin, je pense au dénouement du film, est-ce que l'actualité, par rapport au harcèlement scolaire, ça vous a influencé quelque part ?
Ouais, c'est vraiment ce que mon frère a vécu. Donc c'est pas tant une envie de parler de l'actualité que un besoin de dénoncer cette persécution, ce harcèlement, ce rejet de la différence que j'ai vécu moi presque dans ma chair, enfin en tant qu'enfant. Je l'ai vécu tout le temps. Enfin, j'ai vu un frère qui rentrait de l'école avec des agrafes dans les cheveux. Donc la scène du pop-corn, je pense que c'était une façon même inconsciente de transcender ça ou de le raconter. Et oui, ça me bouleverse de voir que ça continue. Et aussi, par exemple, que mon frère, en fait, il n'en pouvait plus, donc il s'est donné la mort. J'ai parfois l'impression qu'il est mort pour rien, ou que dans une espèce d'absence, une ignorance, tout le monde continue. Et ça, c'est insupportable. Et c'est vrai que cette persécution continue. Et ce film, j'ai envie aussi que les jeunes le voient pour être du côté de ce garçon et se questionner sur qu'est-ce que c'est de persécuter, quoi.
Écoutez la réalisatrice Céline Rouzet au micro de Culture Prohibée.
Je pense que ça n'a pas été facile à tourner ces scènes justement, parce que comme c'est très personnel, parce que pour l'acteur ça n'a pas dû être facile, mais pour vous non plus.
Ouais, en fait, je me suis rendu compte que justement, les scènes d'humiliation, c'est des scènes. Moi, évidemment, je pense que comme beaucoup de cinéastes, il y a des scènes qui nous font pleurer, même sur le plateau. Mais c'est assez beau, ces moments-là, parce qu'on se dit, ça marche, je suis en train de ressentir quelque chose de très fort et de sincère. Et donc, sans doute, le film fonctionnera aussi. Mais c'est vrai que c'était intéressant de voir que la lisière entre la fiction et le réel, elle est très, très fine. Quand bien même on est en train de jouer, c'est des comédiens qui jouent des scènes. En fait, Mathias, il le subit. C'est que Popcorn sur la tête, il les avait vraiment sur la tête et cette humiliation finalement il la ressentait en lui, et donc pour moi ça a été des moments et pour lui et pour moi et pour l'équipe, ça reste des moments qui sont très durs à vivre où on est en train de chercher une justesse, une délicatesse. Enfin, moi je voulais absolument aussi le protéger, mais je devais lui demander plus de colère et il faut aussi obtenir la bonne prise, donc trouver cet équilibre sans se mettre à devenir celui qui maltraite. Après, on avait une grande confiance entre nous, on parlait beaucoup, toute l'équipe était très bienveillante, donc ça s'est bien passé. Mais oui, donc c'est vrai que ce film, voilà, était très très personnel. C'était un film de genre très personnel, mais vous alliez.
J'allais vous poser une autre question, parce qu'en fait, quand vous me parlez, il y a des questions qui me viennent. Je trouve aussi que c'est un film totalement Carpenter, dans le sens où c'est un film sur la contamination du mal, puisqu'en fait, le mal contamine. Et d'ailleurs, le personnage de Céleste Brinkel, tout lui glisse dessus, comme si elle, justement, on n'arrivait pas à la contaminer. Parce que son père est quand même un gros con, il faut dire ce qu'il est. Et à un moment, on fait bien le lien avec les salopards d'ExxonMobil dans votre premier film, puisqu'à un moment, bon, il parle de salariés handicapés, puis première fois quand il se présente, il dit « ici, il y avait de la nature et tout, hop, on a tout broyé, j'ai fait une piscine, j'ai fait une maison, Enfin, c'est un mec qui ne respecte rien. Et qu'il sauf le pognon, quoi, voilà. Et ce personnage de Céleste Brinkel, il est comme. C'est un peu un personnage pur, en fait, dans le film. Et pourtant, la contamination, elle a peut-être opéré à la fin du film. Ça, c'est, ouais. C'est pour nous laisser dans le doute.
Ouais, ben, c'est vrai que M. Berthier, son père, c'est vraiment le parti des forts, c'est le dominant. Elle, c'est quand même la sirène de banlieue qui a toujours été intégrée, un peu petite princesse quand même. Mmh. Mais elle va aller chercher, peut-être qu'elle s'ennuie aussi dans cet endroit un peu fake, un peu superficiel. Et peut-être qu'elle va aller chercher quelque chose de sincère chez Philémon, quelque chose en décalage. Aussi le plaisir de la morsure, une sexualité peut-être un peu plus transgressive. Et en fait, à la fin, enfin voilà, on va peut-être pas parler trop de la fin, mais pour moi, si contamination il y a, c'est qu'il va laisser quelque chose en elle, et peut-être que justement, elle va prendre un chemin différent. Et après, ce qui m'intéressait sur la contamination, c'était comment, c'est en gros la sauvagerie qui se dissimule sous la surface de la vie quotidienne, et d'un monde comme ça qui est censé être très lisse, très civilisé, très policé. Qui est le monde de la banlieue pavillonnaire de classe moyenne supérieure et voilà notre monde occidental. Enfin, pour le documentaire, c'est ça aussi. C'est en fait où se situe la violence. Qui sont les monstres dans ce monde-là? Qui sont les sauvages? Voilà. Et ce film pose cette question.
D'ailleurs, il y a une scène qui est très une scène qui est drôle en plus, qui est très révélatrice de ça. C'est qu'à la fois la petite fille, l'adolescent et les parents. Ils ont le même discours plaqué pour essayer de s'insérer dans cette société dont on voit tout de suite qu'en fait, ils n'en font pas partie, en fait. Ils ne font pas partie de ce monde-là.
Oui, j'avais envie de parler des faux-semblants. En fait, tout le monde ment. C'est dans un monde où tout le monde ment. Donc, nous, on est complices de cette famille qui essaie de... Donc, la famille de Philémon qui essaie de se fondre dans le décor. Et donc, il y a cette espèce de discours plaqué comme ça qu'ils vont répéter. Donc, ils arrivent, ils mentent. Aux autres, mais ils sont face à des gens dont qui sourient un peu trop et ça sonne faux, qui les accueillent, mais attention, il faut pas que ça reste rester à votre place, il faut pas que ça dépasse. C'était ça que j'avais envie de finalement, est-ce que l'étrangeté elle est pas du côté des voisins, la violence et la menace, je voulais qu'elle soit du côté de la banlieue et des voisins et de la norme. Voilà.
Mais d'ailleurs, il y a une scène qui est extraordinaire. Enfin, toutes les scènes, moi j'adore toutes les scènes qui se passent dans le centre de Montluçon, parce qu'on Il y a une suspicion constante, en fait, des autres infirmières par rapport au personnage d'Élodie Bouchet. Et à un moment, il y a un monsieur qui vient, parce qu'on donne à manger dans les centres, vu qu'on fait des prélèvements, il veut à manger et il se fait envoyer bouler, mais c'est très violent, en fait. C'est, d'un point de vue rapport de classe, c'est très violent, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie du même monde, donc on ne veut pas le voir dans cette... Dans ce lieu, quoi.
Oui, c'est ça. C'était hyper important pour moi, cette figure du SDF qui arrive et qui demande « Est-ce que je peux quand même avoir à manger ?»« Ah non, vous... Mais je veux bien donner mon sang. »« Non, non, vous, non. » Enfin, et oui, c'est le quand même, par exemple... Après, le don du sang, c'est génial et c'est hyper important, mais jusqu'à assez tard, par exemple, les homosexuels n'avaient pas le droit de donner leur sang. Ça, j'ai essayé de le faire exister, puis finalement, c'est devenu un SDF. Voilà, mais... ces scènes de voilà, on est généreux, mais jusqu'à un certain point et pas avec tout le monde. C'est aussi ce qui se passe avec le handicap dans notre société, par exemple. On fait exister certains types de handicap. On est une société qui se dit très accueillante et tolérante vis-à-vis du handicap, mais pourtant les personnes handicapées sont pas du tout intégrées dans notre société. Où je parle aussi des gens qui sont atteints qui souffrent d'une certaine forme de folie et c'est des gens qui restent quand même très invisibilisés, forcés de rester au sein de leur famille, dans des centres spécialisés qu'on ne voit pas dans notre quotidien, comme le vampire de cette histoire.
À l'avenir, je pense que vous travaillez déjà sur notre film, peut-être avec un meilleur budget. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du budget.
J'espère,
parce que ça a été compliqué. Visiblement, vous avez eu un tout petit budget, 1 500 000.
Ouais.
C'est ça, c'est faible quand même.
Bah, c'est 26 jours de tournage, donc c'était rapide.
Je suis étonné d'ailleurs que le... Parce qu'il y a eu, à chaque fois je repars sur d'autres questions, je suis désolé. Il y a eu le CNC qui avait mis en place, il y a eu des résidences Sophie, le Cinémajor, il y a eu le CNC qui avait mis en place le thème du fantastique, donc on a vu arriver plein de films fantastiques français. Vachement bien d'ailleurs, je trouve que c'est une super année. Moi j'aime beaucoup Le Vourdalac, j'aime beaucoup Vincent doit mourir, j'aime beaucoup... Enfin tous ces films-là, j'ai trouvé que c'était une super année, moi qui aime bien le fantastique. Et pourtant vous avez eu du mal à trouver un financement, pourtant au final... le film fait partie des meilleurs qui sont sortis sur ces deux dernières années là en termes de fantastique en France. Donc c'est... Puis en plus ça a reçu l'approbation de tout le monde, je veux dire de Mad Movies jusqu'à Télérama. Donc c'est quand même étonnant de ne pas avoir trouvé de financement. alors que quelque part, ça aurait dû, quoi.
Ça, c'est ce qui est génial, c'est qu'on s'est retrouvés et à la Mostra de Venise et avec un prix à Gérard Armé, quoi. Donc, c'est vrai que ça dit bien le grand écart et le fait qu'il a été quand même accepté partout. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a eu la pandémie. Donc, on n'était pas au bon moment. Moi, j'avais pas fait de court-métrage de fiction. Donc, j'avais fait un documentaire, mais j'avais pas prouvé que j'étais capable en fiction. Je pense que ça, ça a pas aidé. Après, voilà, je pense que pandémie, ça, ça fait que ça n'a pas été si simple. L'aide au film de genre du CNC, c'était seulement une année. Nous, on était trop tôt dans l'écriture. Et l'année suivante, c'était devenu, je crois, comédie musicale. Enfin, donc c'était, voilà, pas si simple de trouver sa place dans les financements. Après, bon, le film s'est quand même monté. Et effectivement, enfin, on est hyper contents du résultat, quoi. Mmh.
Alors, donc, ma question, c'était celle-là. Peut-être que, pour le, je pense que vous travaillez sur un projet de film. Est-ce qu'il sera toujours aussi personnel? Est-ce qu'il passera toujours par le prisme du genre? Même si vous ne voulez pas nous en dire trop, mais comment vous voyez l'avenir en termes de réalisation cinématographique?
C'est drôle parce que je pense que ça va vraiment être un mélange du doc, de cette fiction-là, donc du film de genre. C'est à la fois personnel, mais c'est aussi politique et large que l'était mon doc, mon documentaire. C'est-à-dire que c'est un couple, en deux lignes, c'est un couple qui s'expatrie dans une capitale tropicale violente, qui pourrait être en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, et qui va emménager dans une résidence luxueuse et ultra sécurisée d'expat, où on se protège de la violence extérieure, mais est-ce que la violence ne va pas surgir de l'intérieur?
Ben nous, en tout cas, on vous remercie beaucoup, et merci pour le film. Puis on espère qu'on se recroisera dans d'autres festivals pour justement ce prochain film qui s'annonce donc comme un thriller.
Ouais, il y a quelque chose du thriller, du drame. J'ai envie d'insuffler de l'humour aussi, qui est quelque chose de beaucoup de tension toujours, du malaise.
D'accord. Voilà. Avec toujours la même équipe, chef op.
Si ça. Je peux, ouais.
Ok, super. Ouais. Bah, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Connaissez-vous l'histoire du comte Dracula qui dormait dans sa tombe et non fond de son château, je sens sur moi son œil. Quand je range mon violon dans son petit cercueil, dans les rues de la ville, parmi la multitude, je l'imagine dans son lit de solitude. Ce fou romantique, jeté dans les oubliettes, il me semble gratter à ma fenêtre.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee, une émission animée avec Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
S'il est beau, il ignore s'il est laid. Il porte une cape, il porte une fraise en dentelle, un chapeau démodé, mais il est immortel. Je connais une fille dont le sourire pointu est plus cruel que celui de Nosferatu. Le crucifix qui descend entre ses deux seins ferait se damner. On se brûle les yeux sur sa chevelure blonde, comme si l'on revenait d'une cave profonde. Le goût de sa personne comme celui de l'ail me reste dans la bouche, je doute qu'il s'en aille. Il semble que l'amour soit parfois un charme bien pire que celui que l'on prête au prince des vampires, de malheureuses piqûres dans le cou qui vous gratte, discrète signature du vieil aristocrate. Yeah.